Bonsoir, entrons ensemble comme tous les soirs sur France Culture entre 18h20 et 19h dans le temps du débat. À l'ordre du jour ce soir, la culture attire-t-elle encore les mécènes ? Au début du mois d'octobre à Paris, l'association Admical, qui réunit les entreprises mécènes en France, a organisé une journée intitulée « Faut-il en finir avec le mécénat ?», un titre volontairement catastrophiste, au moment même où le gouvernement envisage, dans le projet de loi de finances 2020, une modification à la baisse des déductions fiscales liées aux dons de plus de 2 millions d'euros. Car depuis les lois favorisant au début des années 80 ce même mécénat, cette pratique a cru de telle manière qu'à la Cour des comptes ou au gouvernement, parfois, certains ont imaginé qu'elle s'apparentait désormais plus à une simple niche fiscale qu'à une pratique liée, comme au départ, à l'intérêt général. Par ailleurs, le mécénat culturel semble reculer depuis quelques années au profit du mécénat environnemental, du mécénat humanitaire ou du mécénat social. Nous en débattons ce soir avec quatre invités. Sylvaine Pariot est déléguée générale d'Admical, Arthur Gauthier est professeur à l'ESSEC où il dirige la chaire philanthropie, Sandrina Martins est directrice générale du lieu culturel et sportif qui est le Carreau du Temple à Paris et Jean-Jacques Goron est délégué général de la fondation BNP Paribas.
Le mécénat n'est pas une niche fiscale, le mécénat est conforté, doit être conforté. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'interroger sur des abus et des dévoiements, précisément parce que le mécénat n'a pas vocation à devenir une niche fiscale. Et c'est sur cette base-là que nous avançons. Je rappelle que nous avons libéré le mécénat des PME, TPE qui peuvent déduire jusqu'à 10 000 euros depuis le début de l'année. Je conclue, merci Monsieur le Président. Donc voilà pour répondre à vos questions et nous travaillons en lien avec les acteurs sur l'ensemble de ces sujets.
C'était le secrétaire d'État Gabriel Attal qui répondait aux sénateurs lors d'une séance des questions au gouvernement du Sénat. Justement, c'était le 6 juin dernier. C'est lui qui a annoncé, quelques semaines plus tard, fin août, que le gouvernement comptait revoir à la baisse de 60% à 40% le taux de défiscalisation pour les dons supérieurs à 2 millions d'euros dans ce domaine du mécénat. Bonsoir, Sylvaine Pariot.
Bonsoir.
Vous êtes secrétaire délégué général d'Admical, donc cette association qui regroupe les entreprises mécènes en France. J'imagine qu'une telle annonce ne vous a pas fait beaucoup de bien, en tout cas ça ne vous a pas fait très plaisir.
Alors effectivement, ça ne nous a pas fait plaisir du tout. Donc Gabriel Attal rappelle très justement en début d'année une bonne nouvelle qui nous a fait plaisir, celle d'encourager le mécénat des petites entreprises. Et on verra que c'est un point important pour tous les secteurs du mécénat. Mais la rentrée s'est beaucoup moins bien passée puisqu'il a annoncé ce projet de rabotage du dispositif fiscal existant. Et c'était quasiment en même temps que Emmanuel Macron, lors du G7, appelait les entreprises à s'engager plus, et notamment sur les questions d'environnement et d'inclusion. Donc c'était complètement paradoxal d'entendre le propos du président de la République, d'une part, et ce projet qui va pointer du doigt les grandes entreprises, qu'il faut savoir, c'est qu'elles représentent 57% du budget total du mécénat. Elles ont vraiment un rôle de locomotive dans le mécénat et c'est quelque chose qu'il faut encourager. Donc on ne comprend pas en fait l'intention du gouvernement.
C'est pour ça que vous avez titré votre journée annuelle « Faut-il en finir avec le mécénat ?»
Oui, volontairement on a choisi un titre provocateur. C'est vrai que plus particulièrement cette année, mais l'année dernière aussi, le mécénat a été sous les feux de la critique. Et ce que l'on trouve, nous, dommageable, c'est que le mécénat apporte des contributions sociales, économiques à des projets d'intérêt général. C'est ce qui fait la vraie vie du mécénat et malheureusement, on ne le traite que sous l'angle fiscal.
Alors, ça fait 40 ans maintenant, Arthur Gauthier, que l'Admical a été créé par un ancien directeur de cabinet d'un ministre de la Culture, Jacques Duhamel, puisqu'il s'agissait de Jacques Rigaud, qui a dirigé également la grande radio RTL, mais qui était toujours intéressé par les questions culturelles. Et d'ailleurs, cet Admical s'est fondé sur cette question culturelle en priorité, parce que c'était lui qui en était le maître d'œuvre à ce moment-là. À ce moment-là, c'était vraiment la priorité, faire du mécénat culturel au tout début des années 80. C'est cela, Arthur Gauthier ?
Oui, exactement. Quand le mécénat d'entreprise moderne, on va dire, a émergé dans les années 70, en tout cas dans la sphère publique, c'était la culture, c'était le soutien à des musées, à des expositions, l'organisation de prix, de photographie. En fait, les principales entreprises qui s'intéressaient alors au mécénat, c'était à la fois, quand on regarde les archives des banques, on avait beaucoup de banques déjà à l'époque.
On en a encore une ici, voilà, avec Jean-Jacques Goron, puisque c'est BNP Paribas.
Exactement, et Paribas a fait partie des pionniers en la matière. Mais il y avait aussi des filiales d'entreprises américaines ou étrangères qui venaient s'implanter en France et qui, par leur mécénat, je pense par exemple à IBM ou Hewlett-Packard, qui par le mécénat, en fait, essayer de tisser du lien avec la société française.
Et d'ailleurs, la chaire que vous dirigez donc à l'ESSEC, cette grande école de commerce, s'intitule philanthropie, comme on dirait aux États-Unis, et qu'on ne dit pas en fait en France.
Oui, alors le terme philanthropie, on l'utilise dans un cadre international avec nos collègues quand on parle dans la langue anglaise. C'est vrai que ça désigne pour nous tous les soutiens à l'intérêt général financier, que ce soit ceux des entreprises, des particuliers ou des grandes fondations. C'est vrai qu'en France, on parle plus de mécénat quand on parle des entreprises, même si le terme mécène peut aussi désigner des particuliers.
Je vous propose d'écouter une archive de 1985, justement au moment où se lançait ce mécénat en France, et c'est Jacques Lang, ministre de la Culture à l'époque, qui en parle.
Pour les artistes, c'est un plus, parce que non seulement c'est un supplément d'argent, c'est aussi un supplément de liberté. Pouvoir, au fond, frapper à de nombreuses portes, n'être pas tributaire de l'un ou de l'autre. Par contre, alors je suis là-dessus très clair, ce serait une catastrophe si demain, sous prétexte que les entreprises privées apportent un financement à la culture, l'État se désengageait. Car si demain l'État diminuer sa contribution, je suis sûr qu'aussitôt les entreprises privées diminueraient leur contribution.
Voilà ce que disait en 1985 le ministre de la Culture de l'époque. On était vraiment à l'orée de cette ère du mécénat et culturel en particulier en France, et il craignait déjà que ce mécénat puisse bénéficier ou au contraire subir une baisse des crédits publics. Sandrina Martins, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes directrice générale du Carreau du Temple, qui est un lieu sportif et culturel dans Paris. Et qu'est-ce que vous pensez justement de cette prédiction qui semble s'être plus ou moins réalisée, puisque il semble qu'on compte beaucoup plus aujourd'hui dans le domaine culturel sur le mécénat qu'on comptait auparavant, parce que simplement les crédits d'État commencent à fondre. Enfin, ont commencé à fondre d'ailleurs.
Je pense que effectivement, Jacques Lang avait compris beaucoup de choses. Après, sur la manière où concrètement les choses se passent sur le terrain, en tant qu'opérateur culturel, ce que je constate, c'est au contraire une envie très forte des entreprises de continuer à s'engager sur la voie du mécénat.
Le mécénat culturel en particulier ?
Oui, le mécénat culturel, absolument.
Pourtant, on dit qu'il est en régression face à d'autres types de mécénat.
Oui, mais je crois que c'est aussi une question d'époque. Lorsque tout va bien, qu'il n'y a pas de crise, les pouvoirs publics et les entreprises peuvent se permettre de soutenir également la culture. Et aujourd'hui, le sentiment que j'ai, c'est que la question du mécénat privé, elle est un peu la même aussi que celle du soutien des pouvoirs publics à la culture. Et que les deux, finalement, soient assez indissociables. C'est un phénomène qui est assez commun.
Oui, Jean-Jacques Goron, vous qui êtes délégué général de la fondation BNP Paribas, qui est une fondation fondée en 1984, donc au moment même où parle, en l'occurrence, Jacques Lang, qu'est-ce que vous pensez, justement, de cette fonte de l'intérêt pour la culture par rapport à d'autres types de mécénat, parce que simplement l'opinion publique change, l'opinion publique évolue et a peut-être des désirs d'aller plus vers l'humanitaire, l'environnemental, le social, etc. depuis la crise de 2008.
Il y a eu certainement des glissements. Nous sommes assis sur nos trois piliers depuis 84, c'est-à-dire le soutien à la culture, le soutien à l'inclusion sociale, comme on dit aujourd'hui, en tout cas des actions de solidarité, des actions d'éducation, et le soutien à la recherche. Donc il y a aussi des déplacements dans notre, y compris chez nous, puisque par exemple la recherche a été pendant de longues années soutien à la recherche médicale, et on est passé depuis 10 ans au soutien à la recherche sur le changement climatique, donc on parle bien d'environnement. Mais la culture est toujours là. Donc s'il y a eu des baisses, il n'y en a pas eu chez nous, en tout cas. Et de fait, il nous paraît absolument essentiel de continuer à soutenir des artistes ou des lieux de diffusion et de création. Ces glissements se sont opérés aussi sur la culture, sans doute faire des actions qui ont aussi leur utilité, parce que ce qu'on range dans la culture, ce sont souvent aussi des initiatives qui visent à favoriser l'accès à la culture à des publics dont on dit qu'ils s'en sont éloignés. Ce sont aussi des programmes éducatifs. Nous avons par exemple un programme éducatif qui se déploie à travers 30 projets dans 29 pays au monde, il y en a deux aux États-Unis. Eh bien, ce programme éducatif qui est consiste consiste à accompagner des jeunes gens ou des enfants à la création artistique tout au long de l'année, il est rangé chez nous dans la case éducation, solidarité. Donc oui, il y a eu sans doute des glissements, mais la culture est toujours là et est bien défendue, je crois.
Oui, alors si on s'intéresse à cette question de la culture, c'est parce que évidemment nous sommes sur France Culture, mais aussi parce que on sait que depuis 2003, il y a une loi qui s'appelle la loi Ayagon, ça fait donc maintenant 16 ans, et bien justement cette question culturelle est un peu importante dans le domaine du mécénat. Vous pouvez nous la présenter, Sylvaine Pariot, cette loi Ayagon, et en quoi la loi qui est en train d'être débattue, plutôt le budget qui est en train d'être débattu pour 2020, vient à l'encontre de ce qui a été décidé en 2003.
Alors oui, la loi Ayagon, en fait, quelque part, le mécénat existait avant. On a la preuve avec BNP Paribas, avec la fondation d'ailleurs Crédit Agricole Pays de France, pardon, qui fête ses 40 ans cette année aussi. Donc la loi Ayagon, quelque part, elle sacralise ce principe d'un partenariat entre le public et le privé. C'est ce qu'incarne en fait le dispositif fiscal où il y a une répartition de la dépense au profit de projets d'intérêt général, avec un principe de réduction en fait de l'impôt sur les sociétés. C'est ce qui fait la spécificité du dispositif français pour une part significative, puisque la réduction d'impôt est d'un montant de 60%, une proportion de 60% du montant du don.
Et c'est là-dessus que voudrait revenir justement le gouvernement.
Alors voilà, c'est ce que vous avez rappelé en introduction. En fait, le gouvernement en fait voudrait baisser ce taux de réduction à 40% à partir du moment où l'entreprise dépasse les 2 millions d'euros de dons à l'année. Je voulais juste compléter en fait ce que disait Jean-Jacques, parce que c'est très intéressant en fait. C'est vrai que la culture, on a l'impression qu'elle régresse, mais c'est surtout que les entreprises, et c'est pas le cas, les entreprises prennent de plus en plus en compte les enjeux sociaux qui sont structurels dans notre société et utilisent la culture ou le sport comme un moyen en fait d'insertion sociale. Donc c'est vrai que dans les chiffres, il faut rentrer dans des cases, mais en fait la réalité elle est différente.
Sandrina Martins.
Oui, ce que je voulais ajouter, c'est que effectivement la loi Ayagon est importante et permet une défiscalisation donc de 60% du don sur l'impôt sur les sociétés, mais encore faut-il pour les entreprises qu'elles en paient de l'impôt sur les sociétés. Or, 60% des mécènes en France sont des PME et des TPE, et de très nombreuses entreprises ne paient pas d'impôt sur les sociétés et continuent à financer. Le don moyen d'ailleurs d'une PME est environ de 12 000 euros, et nous, le Carreau du Temple...
Et donnez-nous un exemple.
Exactement. Nous, c'est le cas. On a beaucoup de mécènes en nature, en compétences, hein, qui ne nous donnent pas directement de l'argent, mais qui financent les changements d'ampoules, par exemple, pour des ampoules plus environnementale, et les entreprises...
Ça fait partie du mécénat.
Oui, c'est ce qu'on appelle...
C'est pas comme ça que j'imaginais le mécénat, mais enfin bon...
C'est du mécénat en nature.
C'est du mécénat en nature. En fait, le mécénat, c'est pas forcément un chèque avec de l'argent cash, ça peut être aussi apporter une compétence dont dispose l'entreprise et dont a besoin l'opérateur, en l'occurrence le Carreau du Temple. Et donc, la plupart des entreprises qui nous soutiennent dans nos projets, notamment dans le cadre de notre programme de résidence d'artistes en entreprise, ne peuvent pas être défiscalisées, également parce que nous ne pouvons pas émettre de reçus fiscaux. Notre statut juridique ne nous le permet pas et cela ne les empêche pas de nous soutenir.
Arthur Gauthier, vous-même, vous disiez tout de même que la culture était moins prioritaire qu'elle ne l'avait été dans les années 90, par exemple. Dans le domaine du mécénat.
Disons que dans les années 80, le mécénat culturel était quasiment la seule forme de mécénat. C'est-à-dire que les entreprises soutenaient, on l'a dit, la création, les musées, etc. Et c'est plutôt à partir de la fin des années 80 et l'initiative de certaines entreprises et de certains patrons, comme Claude Bébéard, que la question de la solidarité et de l'humanitaire sont venues sur le devant de la scène. Et en fait, c'est plus aujourd'hui une multiplication des causes.
C'est plus rentable baisse. Pour une entreprise de miser sur ces questions-là que de miser sur la culture, parce qu'il y a aussi tout de même la question de...
Tout dépend ce que vous appelez rentable.
Rentable en image, par exemple. Vous qui travaillez à l'ESSEC, vous savez ce qu'il en est tout de même de ces questions d'image.
Disons qu'une partie des motivations, alors on pourra parler peut-être de la question des motivations plus tard, mais une des motivations, je pense, des entreprises qui font du mécénat, c'est de s'insérer dans la société, la communauté dans laquelle elles ont des opérations, des activités, et donc avoir une bonne réputation, être en bonne relation avec les associations, la société civile, c'est évidemment une priorité. Alors la culture, effectivement, il y a une distance parfois assez grande entre le cœur de métier d'une entreprise mécène et la création artistique, par exemple. Mais certaines entreprises, justement, veulent garder cette différence entre les deux, là où d'autres vont peut-être plus soutenir des actions qui vont être en lien avec leur expertise. Et donc là, peut-être que la culture et la création artistique va s'éloigner de leurs priorités. Mais il y a de tout, hein, dans les entreprises.
Jean-Jacques Goron, qu'est-ce qui explique tout de même que cette petite musique soit en train de monter dans la société française, et en particulier chez les décideurs, qui sont des décideurs publics, de l'idée que ce mécénat se serait dévoyé, c'est-à-dire qu'il serait de plus en plus du côté de la niche fiscale et de moins en moins du côté de l'intérêt général, comme ça a été voulu auparavant, Jean-Jacques Goron?
Je ne peux pas vous dire pourquoi il y a cette musique, parce que quand je considère ce qu'on fait depuis les années 80, au soutien des artistes, au soutien des institutions qui aident les artistes, c'est sans qu'il y ait vraiment de contrepartie, donc...
Oui, alors elle n'est pas nouvelle, hein, cette critique du mécénat niche fiscale. Alors, si vous me permettez, je dirais plutôt l'inverse, parce que quand Gabriel Attal dit, donc on a un membre du gouvernement, un secrétaire d'État...
Le mécénat n'est pas une niche fiscale, mais c'est un outil formidable qui a fait des preuves en termes de financement de l'intérêt général.
C'est la première fois que nous avons quand même au gouvernement une position publique qui dit le mécénat n'est pas une niche fiscale. Et quand Bruno Le Maire a annoncé cet été la réforme des niches fiscales, il a volontairement déconnecté le sujet du mécénat et dit que Gabriel Attal, Franck Riester en parlerait à un autre moment.
Donc c'est une vraie... Ça, c'est le gouvernement. Mais la Cour des comptes, elle ne dit pas la même chose que dans ses rapports.
La Cour des comptes, en fait, si on regarde de près, et ce n'est pas forcément la lecture médiatique qui en a été faite, elle dit...
C'est forcément la photo média, je suis désolée, mais c'est toujours la même chose. Continuez.
Non, mais parce que ce que la Cour des comptes dit, c'est qu'en fait, Bercy, quelque part, n'est pas capable de dire où va l'argent du mécénat, à quoi il sert. Nous, acteurs du mécénat, on fait des études et on sait le dire, mais Bercy ne sait pas le dire, puisqu'elle ne le demande pas aux entreprises. Donc c'est plutôt en fait ce manque de reporting de la part de Bercy qui a été pointé par la Cour des comptes que véritablement le côté niche fiscale.
Arthur Gauthier et puis Sandrina Martins.
Oui, dans le rapport de la Cour des comptes, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit l'augmentation effectivement des réductions qui sont accordées aux entreprises au fil des années. Donc ça veut dire que le dispositif fiscal est incitatif, fonctionne. On s'en étonne aujourd'hui qu'il marche aussi bien, donc enfin, il n'y a pas de surprise par rapport à ce qui avait été conçu au départ. Par contre, là où ça pose une question, c'est, je pense, dans l'utilisation du dispositif par des très très grandes entreprises, des très très grands mécènes qui
C'est pour ça qu'on vise ceux qui ont plus de 2 millions d'euros, par exemple. C'est les dons...
Alors, à partir de quand devient-on un grand mécène?
Je ne sais pas.
Non, mais effectivement, ça pose des questions, en tout cas, évidemment, l'argent, le mécénat, est aussi un pouvoir de décider qui va être financé ou pas. Donc, ça, c'est plutôt pour ces très, très grands mécènes que ça pose une question.
Oui, et c'est une vraie différence en cela par rapport à l'impôt. L'impôt n'est pas affecté, c'est le principe même de l'impôt. Le mécénat l'est, en l'occurrence, Sandrina Martins. C'est-à-dire qu'un mécène peut choisir de flécher son argent vers tel ou tel opérateur, et puis peut-être 10 ans plus tard de supprimer cette aide pour aller vers un autre opérateur, ce qui n'est pas le cas forcément de l'État.
Oui, en fait, aujourd'hui, on travaille vraiment sur, je dirais même, des partenariats de one-shot. C'est-à-dire qu'on propose un projet, une collaboration à une entreprise qui va nous soutenir sur ce projet et ne va pas forcément s'engager dans le temps. Sur la petite musique, moi, j'avais envie de revenir un peu, parce que de mon point de vue, de celui des opérateurs culturels, qu'est-ce qui peut expliquer cette petite musique-là?
L'article du Monde, Michel Guérin, l'image du mécénat a perdu en éthique, dit-il, par exemple, trop associé à la fiscalité et pas assez à l'intérêt général. Bon, certes, c'est la petite musique médiatique qui était pointée du doigt par Sylvaine Pariaud, mais néanmoins, c'est un grand journal de référence, comme on dit.
Absolument. Moi, ce que je ressens, c'est que en France, on a, je pense qu'il faut le contextualiser par rapport à notre pays. On a des années de politique culturelle qui sont un modèle unique dans le monde. Donc, ça a créé une forme de suspicion vis-à-vis des entreprises privées. C'est-à-dire, quand on a des musées partout en France, des scènes nationales, des centres dramatiques nationaux, des centres chorégraphiques...
Avec toute la politique qui a été mise en œuvre par Malraux et puis ensuite par Lang et tous les successeurs.
Tout à fait, avec cet héritage de politique culturelle, finalement, où l'argent public, pendant un temps, n'a pas manqué. Les artistes pouvaient créer les œuvres qu'ils souhaitaient créer. Trouver des coproductions, c'était pas très compliqué. Moi, j'ai connu ça quand j'ai commencé à travailler. Et l'époque d'aujourd'hui, ça a beaucoup changé. Mais donc, cette suspicion, en revanche, est restée. Et c'est ça qu'il faut pouvoir transformer.
Jean-Jacques Goron, c'était Gabriel Attal, qui disait « Si on en vient à considérer le mécénat comme un mécanisme d'optimisation fiscale, il finira par être remis en cause dans son principe même. » En l'occurrence, il parlait, par exemple, de l'afflux d'argent arrivé, les 950 millions qui sont promis pour la restauration de Notre-Dame de Paris, par exemple.
Ils ont été promis, oui, absolument. Mais je pense que là, en fait, le sujet de notre émission, c'est quand même aussi de défendre les artistes à la création et de montrer qu'il peut y avoir un excellent ménage entre de l'argent public et de l'argent privé. Vous avez parlé de l'État, mais il faut parler aussi des collectivités locales,
bien
qui
sûr.
Sont quand même des partenaires extrêmement importants sur le soutien à la culture. Il n'y a pas que l'État et ses directions décentralisées. Et ces collectivités elles-mêmes, vous dites, les entreprises choisissent évidemment d'affecter leurs dons où elles le souhaitent, mais c'est un petit peu la même chose du côté des collectivités. Et elles n'ont pas forcément un lien très pérenne, toujours, avec les artistes ou les associations qu'elles défendent ou qu'elles soutiennent. Donc voilà, on en est là.
Culture, le temps du débat, Emmanuel Laurentin.
C'était en 2018 à la Philharmonie de Paris, un morceau d'Ismaëllo Tajabone joué par l'orchestre de la Société Générale, 380 instrumentistes et choristes amateurs, tous collaborateurs de la banque, mécènes de la Philharmonie justement, avec l'orchestre Les Siècles, le chœur de chambre Les Métaboles et les enfants de l'orchestre des orchestres Demos sous la direction de François-Xavier Roth. Une des questions tout de même, Sylvaine Pariot, c'est de se poser la question de savoir si le mécénat touche des projets très variés ou si les mécènes fabriquent eux-mêmes leurs propres lieux. On connaît l'exemple de la fondation Pinault, par exemple, ou des fondations qui permettent justement en interne de faire une sorte de lieu culturel. Est-ce que c'est la même chose, ces deux types de mécénat, c'est-à-dire un mécénat qui est tourné vers des institutions qui existent déjà et qu'on aide, ou un mécénat qui est tourné vers l'interne?
Alors, merci de me poser cette question, parce que effectivement, c'est un point majeur. C'est que, en fait, dans 99,99% des cas, le mécénat, c'est une entreprise qui décide de servir l'intérêt général et qui va soutenir une association, des structures publiques d'ailleurs, de plus en plus d'acteurs publics sont soutenus par les entreprises. Et dans un très petit nombre de cas, en fait, la fondation est ce qu'on appelle opérationnelle, c'est-à-dire qu'elle mène ses programmes. Et c'est l'exemple que vous avez donné. Et dans les fondations qui sont opérationnelles, il y en a aussi qui agissent dans le domaine social. Je peux citer par exemple la fondation du PSG qui fait des actions d'insertion sociale et professionnelle. Et après, il y a une très petite part, même pas 10 je pense en France, d'entreprises qui créent des lieux d'exposition. Alors vous allez dire que je m'en prends encore aux médias, mais c'est vrai que dans la vie médiatique en fait du mécénat, c'est cette toute petite part qui est très souvent mise en avant, elle existe, elle est très visible.
Parce que les fondations en question montants ont intérêt aussi à le faire.
Oui, oui, oui. Mais ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas du tout représentatif du mécénat quotidien ou du mécénat de l'ombre.
Et c'est les questions qui étaient posées dans des articles récents. Peut-être que si les élus avaient eu à débattre, ils n'auraient pas choisi d'attribuer 480 millions d'euros sur les 800 millions d'euros à la fondation Vuitton. En l'occurrence, cette question, Arthur Gauthier, est une question importante.
Oui, et je pense que la question des établissements ou des causes qui sont financées par les mécènes est très intéressante. Je dirais que dans ce qu'on voit dans l'histoire, dans les années 80, c'est vrai que beaucoup de mécénats culturels étaient destinés à des grands établissements publics, d'ailleurs, prestigieux, l'Opéra National de Paris.
Surtout, des grosses entreprises finançaient beaucoup, et financent peut-être encore beaucoup, des grandes opérations culturelles dans des grandes entreprises culturelles, que ce soit le Louvre, l'Opéra de Paris ou des choses comme ça.
Donc effectivement, il y a une part du mécénat qui est affectée vers nos fleurons culturels qui sont visibles à l'international, mais pas que. C'est-à-dire que prenez par exemple la musique, les musiques actuelles, la musique populaire, dès 1980, 90, le Festival des Eurockéennes de Belfort, par exemple, a créé un club de mécènes avec des PME dans le territoire belfortin. Et assez vite, ils ont compris l'intérêt, justement, de faire ce partenariat public-privé sur le territoire, pour l'attractivité du territoire, pour le lien avec les salariés.
Sur l'exemple des caisses d'épargne italiennes, qui sont très présentes sur des territoires très particuliers, et qui sont pour être peut-être même les premiers exemples de mécénat culturel avant tout autre pays, en l'occurrence. On est de Ferrare, et donc la caisse d'épargne de Ferrare finance des opérations pour les musées de Ferrare, en l'occurrence, Sandrine Martins.
Oui, mais je crois aussi qu'il faut sortir d'un tropisme parisien et se poser la question de l'évolution du mécénat culturel aujourd'hui.
Vous avez beaucoup travaillé à Marseille, par exemple.
Exactement, oui, j'ai travaillé pour Marseille Provence 2013, la capitale européenne de la culture. Et en réalité, on se rend compte que les entreprises mécènes en région, sur les territoires, jouent un rôle vraiment très important pour le financement des projets et notamment pour financer la création artistique. Donc je crois qu'on est... cette importance-là, elle est à mettre en valeur, puisque privé et public travaillent main dans la main. Et je crois que ce qui est important aujourd'hui, c'est de travailler sur davantage de projets collaboratifs.
Jean-Jacques Goron.
Écoutez, des institutions, on en soutient quelques-unes, évidemment dans le domaine que nous avons choisi, c'est-à-dire à nouveau la danse contemporaine, les arts du cirque et les musiques de jazz. Et par exemple, on soutient le festival...
Juste une question, comment une fondation comme la vôtre, BNP Paribas, choisit ces domaines-là? Pourquoi ces domaines-là? Est-ce que c'est parce que Jean-Jacques Goron, qui la dirige, aime le jazz et la danse contemporaine?
Mais j'aime la danse et le jazz. Voilà, alors, je vais vous mettre très à l'aise parce que...
Et comment on décide en conseil d'administration? Comment ça se passe exactement?
Oui, bien sûr, parce que quand il y a une fondation, il y a une gouvernance et il y a un comité exécutif de la fondation BNP Paribas, comme il y en a ailleurs, évidemment, avec son président et ses membres. Nous sommes une fondation plus sous égide de la Fondation de France, donc les choses ne se font pas, évidemment, sous ma seule gouverne. Mais la danse contemporaine, non, c'est pas de mon fait. C'est arrivé au moment de la création de la fondation à l'époque Paribas, qui est devenue BNP Paribas, dans les années 80, parce que vous savez, il y a eu un mouvement très important en France sur la danse contemporaine. Enfin, ça a été très très fécond, et c'était l'idée d'aller vers ces formes, parce que ce sont des formes assez universelles, et que quand on est une entreprise internationale, on aime bien aussi aller vers des formes universelles, des formes de création, qui sont riches aussi, parce qu'il y a vraiment eu quelque chose de très fécond, tout... Exactement de la même façon avec les arts du cirque qui ont démarré en 2000. Donc voilà, c'est...
Tout de même, Sylvain Pario, la culture, et je parle en présence d'une spécialiste, Sandrine Martins, ça peut être clivant, ça peut être, disons, coruscant, ça peut frotter, ça peut faire mal, ça n'est pas... Enfin, je veux dire, quand on travaille avec Yann Fabre, quand on travaille avec des artistes de ce type-là, de cette catégorie-là, ça n'est pas forcément pour une entreprise toujours obtenir un saut de respectabilité, par exemple.
Alors, ce que je voulais, le point que je voulais vraiment sur lequel je voulais insister, c'est que la principale raison pour les entreprises à faire du mécénat culturel, c'est l'ancrage territorial. Donc ça, c'est une dimension qu'on n'a pas forcément en tête, mais c'est leur principale motivation. Ce qu'il faut savoir,
quand on parle de la capitale, ça n'est pas le cas pour tous les mécénats qui se déroulent partout dans France.
Oui, et 89% des actions de mécénat se déroulent au niveau local. Donc cette dimension-là, elle est très forte. Voilà, et par rapport à votre question, Jean-Jacques le rappelait...
Le caractère clivant de la culture, parfois.
Le rappelait tout à l'heure, il y a une très forte tendance, en fait, dans le mécénat culturel, à soutenir de plus en plus des actions qui sont un accès à la culture. Donc là, effectivement, c'est moins clivant et ça vient répondre aux attentes de la société.
Oui, c'est-à-dire que la démocratisation culturelle qui était prévue, pensée depuis l'après-Seconde Guerre mondiale, eh bien, passe plus par, peut-être tout le temps par les pouvoirs publics, mais aussi par les entreprises, Sandrine Martins.
Oui, effectivement, je crois que aujourd'hui, avec les mutations du monde, l'accélération du temps, les nouvelles technologies, davantage de travail en direction des démocraties plus représentatives, enfin bref, tout ça crée un bouillon. On a besoin de changer, et je crois que pendant un temps, les politiques culturelles se sont fondées sur la création de lieux, donc avec la grande période de la décentralisation partout en France. Ensuite, on a parlé avec la fin de l'industrie des nouveaux territoires de l'art avec les friches industrielles, où là, on a aménagé de nouveaux espaces pour créer des lieux culturels. Et aujourd'hui, je crois vraiment que les entreprises sont un nouveau territoire de l'art. Et c'est pour ça que proposer à des artistes d'y intervenir, c'est important.
Arthur Gauthier, tout de même, cette éducation populaire qui était espérée à la fin de la Seconde Guerre mondiale par tout un tas de militants, etc., peut-elle être prise en charge par des entreprises ?
Moi, je pense, on parlait de démocratisation en démocratie, je pense qu'il y a des initiatives intéressantes qui essayent de déléguer le choix des œuvres et des projets qui vont être financés, non plus seulement aux élus locaux ou aux responsables du ministère de la Culture, non plus seulement aux patrons des grandes entreprises, mais aux salariés des entreprises, aux citoyens des territoires. Je pense à la présentation des nouveaux commanditaires, par exemple, de la Fondation de France, qui permet en fait à des citoyens de choisir les œuvres qui seront en fait installées dans les rues dans lesquelles ils vivent. Et c'est intéressant de donner aussi des contre-pouvoirs, de donner du choix aux personnes dans le choix des projets culturels.
Jean-Jacques Moron, brièvement.
Oui, la danse contemporaine, le jazz, c'est pas non plus forcément évident pour tous les publics. Alors justement, le rôle d'une fondation, c'est à la fois de prendre des risques. Hein. Fia Ménard, vous avez cité Yann Fabre, moi je peux vous citer Fia Ménard qui est soutenue par la fondation BNP Paribas. C'est d'être un médiateur avec les publics. Et c'est exactement ce que nous employons à faire tout au long de l'année.
Alors il y a des risques parfois de retournement, comme par exemple au début du mois de juillet, une manifestation devant le Louvre.
Nous dénonçons aux côtés de Payne aujourd'hui le fait que le Louvre ait encore quelques salles qui portent le nom de Sacré-Cœur. Donc on demande que le Louvre change le nom de ses salles, au moins par respect pour les centaines de milliers d'usagers morts à cause d'un produit vendu par l'industrie pharmaceutique et condamné aux États-Unis d'ailleurs.
C'était une manifestation devant le Louvre le 2 juillet dernier pour réclamer que le nom de Sacler n'apparaisse plus sur une aile du musée. Alors Sacler, c'est ce grand laboratoire pharmaceutique états-unien qui donc a été mis en cause dans la question des opioïdes aux États-Unis. Et Sacler était une famille qui avait beaucoup donné à beaucoup de musées du monde, dont le Louvre. Et donc on a commencé à vouloir effacer, ce qui s'est passé d'ailleurs pour cette aile du musée du Louvre, le nom des Sacler. C'était une question de retournement. On parle d'éthique, on parle de ces questions qui sont liées à la question mécénale. Qu'est-ce qu'on peut en dire, Sylvaine Pariot? C'est-à-dire, évidemment, si des grands laboratoires pharmaceutiques qui se trouvent parfois en justice, comme c'est le cas pour l'un d'entre eux aujourd'hui, avaient financé ou ont financé des grandes actions de mécénat, c'est un peu gênant pour ceux qui s'y retrouvent dans les musées ou dans les grands théâtres publics, par exemple.
Alors oui, c'est une vraie question et pour nous, à Mika, la question de l'éthique, elle est primordiale. Effectivement, là, on se retrouve dans des cas de figure qui, même s'ils sont rares, sont inacceptables, où le mécénat est instrumentalisé par l'entreprise. Donc ça, effectivement, c'est des pratiques que l'on condamne, puisque le mécénat ne doit pas venir cacher des pratiques par ailleurs de l'entreprise qui sont assez néfastes, comme dans ce cas de figure. Donc la question de l'éthique, pour nous, elle est essentielle, et sans aller jusqu'à des cas extrêmes comme celui que vous avez cité.
Mais par exemple, quand on travaille dans l'environnement, le mécénat environnemental, on sort de notre sujet sur le mécénat culturel, ouais. C'est risqué parce qu'on peut être une entreprise qui a des mines, par exemple, à l'autre bout du monde et qui se retrouve coincée par le fait qu'on veut faire du mécénat environnemental, mais que par ailleurs on pollue énormément travaillant dans ces mines.
Oui, oui. Donc c'est là où on touche à la question entre le mécénat et la question de la responsabilité sociale de l'entreprise. Mais aujourd'hui, les entreprises ont bien compris que si elles n'agissent pas d'abord sur leur cœur de métier pour améliorer leurs pratiques, c'est d'abord la priorité et après elles vont faire du mécénat. Sur la question environnementale, il y a des entreprises qui ont fait un choix. BNP, vous l'avez fait. Vous allez sur la recherche, sur du très long terme. Donc on voit bien qu'il n'y a pas de lien entre les deux.
Sur ce point, Arthur Gauthier.
Oui, il y a aussi une responsabilité des organisations culturelles et des organisations d'intérêt général de faire aussi leur travail, de regarder quel type de partenaire ils veulent avoir. Est-ce qu'ils acceptent tout type de financement ou est-ce qu'ils vont faire une espèce de due diligence pour aller voir...
De quoi
des formations professionnelles. D'aller voir...
Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Non mais dites-nous.
Vous allez étudier, par exemple, les activités, les revenus d'une entreprise qui se
avant
propose d'être...
Ses dons.
Exactement. Et il y a en fait, dans les plus grands établissements culturels notamment, ils font très très attention à ça. Il y a une grande traçabilité qui est faite des dons. Ils veulent surtout pas être pris dans des scandales de ce type-là.
Mais on ne savait pas que les Sacler étaient dans la crise des opioïdes et donc on a pu accepter leur argent et ensuite la crise des opioïdes
est
lancée.
C'est, voilà. Après, c'est la façon dont on répond à la crise. Ça, c'est de la communication de crise et après, est-ce qu'il faut accepter de nouveaux dons de ce type de société? C'est un débat.
Sandrine Lamartine.
Le Carreau du Temple est un établissement de la ville de Paris.
Vous avez de la due diligence, je n'ai pas très bien compris comment vous disiez. Vous faites ça, vous?
En fait, nous, ce qu'on fait, c'est que systématiquement, que ce soit pour un mécénat en compétence, une entreprise que l'on va...
Qu'est-ce qu'on appelle le mécénat? mécénat en compétences? Parce que ça, on n'en a pas parlé, c'est quoi le mécénat en compétences?
C'est quand, par exemple, je décide de changer donc toutes les ampoules du sous-sol.
Ah, c'est ça, c'est du mécénat en compétences.
Exactement, c'est ça. Donc l'entreprise apporte ses compétences et donc elle devient mécène. Mais donc je revenais donc par rapport au Carreau du Temps, donc c'est un établissement de la ville de Paris. Donc la ville de Paris porte quand même un discours, un engagement éthique assez fort hein, sur les mécènes. Et nous-mêmes, en tout cas moi en tant que directrice d'établissement, je fais vraiment très attention. Donc je dois faire ce qui s'appelle donc le due intelligence. Ouais. Je regarde vraiment attentivement, on fait des recherches en équipe, hein, pas plus tard qu'hier, on m'a proposé un projet même de location d'espace, qui n'est pas du mécénat, mais ce sont des ressources privées. Mmh. On fait des recherches hein, pour savoir si on peut, si on n'engage pas une image négative du Carreau du Temple.
Jean-Jacques Goron.
Oui, je crois que l'éthique est évidemment une chose essentielle. Et par exemple, quand on soutient, je reviens à la culture, pardon, c'est le sujet, mais quand on soutient des artistes, il est évidemment essentiel de ne pas intervenir dans leur choix, dans leur direction artistique. C'est un dialogue et c'est un échange. Mais voilà, ça c'est une question de responsabilité et c'est très important.
Alors sur ce, on a commencé avec vous, Sylvaine Pariaud, sur cette loi qui était, enfin, disons sur ce projet de gouvernemental de réduire justement la question des dons et les déductions fiscales qui sont liées aux dons de plus de 2 millions d'euros. On voit que vous êtes parti en guerre en tant qu'amical, c'est tout à fait évident. Et d'ailleurs, cette émission participe, j'imagine, d'un plan de communication qui nous dépasse, personnellement. Enfin bon, allons-y. Vous êtes parti en guerre autour de ces questions donc de mécénat et de rapport au gouvernement. On sait qu'on discute longuement dans ces contextes de débats à l'Assemblée nationale et au Sénat. Vous avez espoir de faire revenir le gouvernement sur ces projets ou est-ce que, vous, évidemment, vous avez espoir, mais est-ce que vous pensez que vous auriez l'écoute du gouvernement dans ce domaine-là?
Puisque cette bataille, on ne l'a pas gagnée avec le gouvernement, c'est au Parlement, en fait, que le débat va avoir lieu. Et ce qu'on espère, c'est que les parlementaires s'opposent à la réforme du gouvernement.
On imagine, mais simplement, est-ce que vous pensez qu'il ne faut pas aussi faire lever toutes les hypothèques qu'il y a autour de cette idée d'éthique ou de cette idée, justement, de niche fiscale? C'est-à-dire que, en fait, les entreprises ne seraient pas totalement dans l'intérêt général, mais pour d'autres intérêts, aurait d'autres intérêts à faire du mécénat.
Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que pourquoi c'est pas une niche fiscale, c'est parce que le mécénat, dans tous les cas, coûte 40% du don à l'entreprise.
Oui,
donc c'est une dépense pour l'entreprise.
Dire, on était avec Arthur Gauthier tout à l'heure, on peut se dire que les bénéfices en images apporte encore beaucoup plus que les 40% qui coûtent.
Mais c'est là où on a, je pense, une mauvaise image de ce que apporte le mécénat. Je ne l'ai pas dit, j'ai dit on.
Vous l'avez pensé très fort.
Et les citoyens. Alors, je vais citer une étude qu'on a faite sur les Français et le mécénat, qui globalement ont une bonne image du mécénat d'entreprise. Mais quand on les interroge, c'est sur les raisons pour lesquelles les entreprises font du mécénat, c'est des enjeux de communication et fiscaux. Et on voit bien que la réalité, elle est tout autre. Mais ce que je voulais dire, c'est que l'entreprise, c'est une dépense pour elle, elle n'est pas dans un acte de charité. Bien évidemment qu'elle en attend des retours. Et il faut être très clair sur le fait qu'on assume le fait que l'entreprise doit avoir des retours quand elle fait du mécénat. Le retour n'est jamais principalement l'image, la communication. C'est l'ancrage territorial, l'innovation, l'implication des collaborateurs, la fierté d'appartenance. Et aussi, il y a l'image. Mais l'image, ça vient bien après.
Arthur Gauthier, et puis pour conclure, Jean-Jacques Goron. Et si vous voulez intervenir, Sandrine Martins, pour conclure.
Oui, la question des motivations est assez complexe. Quand on regarde la recherche en psychologie, en économie, sur les motivations du don, on voit qu'il y a une part d'altruisme, une part d'égoïsme, et une part aussi de normes et de principes. Et en fait, il y a eu beaucoup de recherches justement sur les motivations des dirigeants. Et effectivement, je pense qu'on est dans une étape aujourd'hui où l'entreprise veut essayer de être en bon rapport avec l'ensemble de ses parties prenantes.
Jean-Jacques Goron, très brièvement.
Je pense qu'il faudrait donner la parole aux artistes et aux établissements qui accueillent ces artistes et qui les produisent et qui les aident et les accompagnent également. Et je pense que ce sont les premiers défenseurs du mécénat.
Bah, vous en avez un à côté de vous, puisque Sandrine Martin, c'est représentante du Carreau du Temple, brièvement.
Absolument, je crois que les motivations des entreprises aujourd'hui, c'est de contribuer au développement culturel de leur territoire, qui provoque également du développement économique.
Merci beaucoup à tous les quatre d'être venus à l'occasion de la journée qu'avait organisée l'AdMical au début du mois d'octobre autour du thème « Faut-il en finir avec le mécénat ?» pour parler justement du mécénat culturel aujourd'hui. «
C'était Le Temps du Débat. Chloé Cambrelin, Louise André, Fanny Richer, Rémi Baille et Hugo Boursier. À la technique aujourd'hui, Marie-Claire Oumabadi et à la réalisation, Marie-Laure Ciboulet.